Petits éclats de lire.
Petits éclats de lire.
Petits éclats de lire, une émission de l'association Éclats de lire et Fréquences Mistral pour partager nos coups de cœur parmi quelques parutions jeunesse. Aujourd'hui avec Jeanne.
Bonjour.
Michel.
Bonjour.
Daniel.
Bonjour.
Nechati.
Bonjour.
Et Laetitia.
Et Marisa.
D'entre les ogres.
Je vais vous présenter D'entre les ogres de Baume et de Dieu, édition Seuil Jeunesse à partir de 3-4 ans. Baume, l'auteur, vit en Alsace. Il a été professeur des écoles et alors a découvert la littérature jeunesse. Il a rencontré l'illustrateur De Dieu. De Dieu a beaucoup dessiné et il est aussi venu à Manosque lors d'une précédente fête du livre jeunesse. D'entre les orgues, les ogres, est un livre puissant. Puissant par les personnages mis en place, le graphisme sombre des personnages, hirsutes avec de grandes dents, pieds nus, horribles, et le texte qui l'accompagne si bien. Voilà, cela fait 200 ans que le couple d'ogres voulait un enfant, et ce matin-là, l'ogre trouve un panier abandonné au cœur de la forêt, avec une petite fille dedans. C'est le bonheur. Ils vont la choyer. Ils vont lui cuisiner les mets les plus fins, l'habiller de soie. Mais Blanche questionne. Pourquoi les parents ne mangent pas comme elle? Où vont-ils la nuit quand elle dort? Quelle est cette odeur de la cave? Blanche a le savoir de tous les non-dits, de tous les secrets de famille que les enfants entendent si bien. Les ogres ne peuvent pas lui répondre, et l'ogre et l'ogresse décident de la ramener dans le village des hommes. Le chagrin des hommes devant cette solution déchirante est visible à travers les illustrations de De Dieu. L'ogre est pétrifié devant la petite fille qu'il tente d'abandonner. Il s'est statufié. Et là, surpris par les hommes, il est pris. La foule est haineuse. Elle veut la mort. Elle veut sa mort. Mais Blanche est là, avec toute sa tendresse pour l'ogre. Sa tendresse qui va au-delà de toute limite. Elle prend le risque de mettre sa tête dans l'immense bouche du papa monstre. Et il ne se passe rien. La foule est médusée. Blanche n'a pas une égratignure. Et surtout, dans l'œil de l'ogre, il y a l'étincelle de l'amour. Et dans l'œil de Blanche, il y a toute la force de son amour pour lui, au-delà de tous les risques. C'est un très bel album. Vous avez certainement compris qu'il me plaît beaucoup. Il fait peur. Les ogres sont affreux, mais avec une tendresse au fond du cœur que Blanche nous fait découvrir. Je pense que tous les enfants aiment avoir peur. Et tous, ils vont adorer les ogres et la petite Blanche.
Cœur de bois.
Moi, c'est pas du tout une histoire d'ogre. C'est une histoire qui s'appelle Cœur de bois de Henri Meunier et Régis Lejeune. Quand l'histoire commence, on est dans un village, c'est l'hiver, le ciel est sombre, il a neigé, peut-être qu'il neige encore. Dans une maison du village habite Aurore. Aurore força le trait de colle sur ses yeux. Elle coinça sous son béret quelques mèches revêches, déposa deux gouttes de parfum à la naissance de son cou et enfila son caban. Elle s'apprécia une dernière fois dans le miroir. « La plus belle, c'est moi, et merde à Blanche-Neige, gloussa-t-elle. » Tiens, tiens, la quarantaine généreuse, une allure de jeune femme, un teint de gamine. En vérité, Aurore n'avait besoin d'aucun artifice pour faire ravage. Mais les soins précautionneux qu'elle portait à son apparence étaient pour elle comme le bon pain, une nécessité heureuse. Même pour une balade en forêt, avec un vieillard impotent, elle voulait être irrésistible. Donc la voilà prête, elle sort de la maison, prend sa voiture. Cette voiture, c'est un espèce de pot de yaourt, je ne sais plus comment on appelait ça, cette marque de voiture.
Fiat 500.
Fiat 500, voilà. Fiat 500 rouge. Tiens, tiens. Elle s'arrête à la boulangerie pour acheter des gâteaux et repart en voiture. La route s'enfonce petit à petit dans la forêt. Chemin faisant, elle pense à sa petite dernière qui est un peu souffrante. Elle pense aux courses qu'elle doit faire. Elle pense qu'il faut aller chercher la plus grande. Bref, c'est une maman de maintenant.
De tous les jours.
De tous les jours, avec ses petits soucis. Aurore arrête sa voiture à l'entrée d'un chemin et continue à pied. Elle marche dans la forêt, le cœur léger. La route est longue. Elle débouche dans une clairière.
Ça me rappelle quelque chose.
Au fond de la clairière, un pavillon de chasse délabré qui paraît sans vie.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
C'est moi, Lança Aurore. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas de réponse. Une odeur âcre l'assaillit. Elle réprima à haut le cœur. Aurore se rendit directement dans la cuisine. Elle mit de l'eau dans la bouilloire sur le feu. Jugeant du désordre, elle s'occupa de la vaisselle, arrangea la poubelle et remit un peu d'harmonie dans la cuisine négligée du vieux. « Votre aide à domicile n'est pas passée à ce que je vois », s'amusa-t-elle. « Cela ne vous ennuie pas si j'aère 2 secondes ?» Donc Aurore prépare le terre, prépare le thé, coupe le gâteau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsqu'elle pénétra dans le salon avec le thé fumant, le vieillard était assoupi dans son fauteuil.
Ah, c'est pas une grand-mère.
Pas du tout. Tiens, tiens. Elle déposa le plateau sur la table basse et s'assit face à lui. Elle le dévisagea un moment, puis avec délicatesse, elle lui effleura le genou. Le vieillard ouvrit les yeux et lui sourit. Mais à qui donc parle-t-elle? Vous avez une idée? Eh bien voilà. Tiens, tiens. C'est un loup, un très vieux loup, et qui a toujours faim. Mais tout en partageant le goûter, il bavarde tranquillement des choses de la vie. Il s'enquit de la scolarité des petites, des voyages de son mari. Aurore s'inquiéta en retour de son état de santé. Une conversation convenue au mot près, comme un peu de miel dans leur thé. Et puis, vient l'heure de la promenade en fauteuil roulant. Aurore est venue pour promener son
monsieur
vieux
loup.
Monsieur. Donc, elle l'installe dans le fauteuil. Avec difficulté, il est très, très, très handicapé. Il tombe, elle le reprend, elle le couvre. Elle s'occupe vraiment, elle prend vraiment bien, bien soin de lui. Et la conversation en promenade prend une toute autre tournure. « Je ne sais même pas si j'ai des petits-enfants, » dit le loup. « Je n'ai que vous, fillette, et je ne comprends pas pourquoi. » « Je ne comprends pas vos attentions pour moi, qui naguère vous ai dévorée toute crue, tiens, tiens. Je ne comprends pas votre pardon. »« Je ne vous ai rien pardonné, » souffla Aurore. « Je suis désolée, » bougonna le vieillard impotent. « Je n'ai pas besoin d'excuses non plus, » ajouta-t-elle en admirant la chute hasardeuse de premier flocon. « Aujourd'hui, vous êtes seul et je ne le suis pas. Vous êtes malheureux et je ne le suis pas. Vous êtes fragile et je ne le suis plus. » Vous m'avez dévoré hier, je viens me promener avec vous aujourd'hui. C'est que j'aime profondément la forêt, l'odeur du sous-bois, le soupir des arbres, le vol fou des jets. Nous croyez-vous seuls? Nous ne le sommes pas. Avec votre fauteuil, je pousse vos crocs et mes blessures. Mais tour de roue après tour de roue, je me prouve que rien n'est jamais perdu. Je vous rends visite parce que je suis là, debout, malgré vous. Je veux croire qu'il est possible de devenir grand sans devenir méchant. Et je prends soin de vous pour le croire toujours. Je veux être assez forte pour pouvoir aimer, même vous.
Ben dis donc.
Ben dis donc.
C'est une histoire terrible,
oui et non. Parce qu'elle est quand même, il y a quand même un côté positif. Et c'est une histoire qui, à mon avis, qu'il faut faire suivre d'une petite conversation avec ceux à qui on la lit. Parce que c'est une histoire qui
c'est
pose
grave.
Des problèmes, qui
oui.
est grave, qui... voilà.
Oui.
Je pense qu'on ne peut pas la terminer simplement comme ça. Il s'est passé effectivement des choses graves avant.
Et il y a la notion du pardon.
Et voilà, il y a la notion du pardon qui est très très importante.
Et du pardon et du rebondissement.
Et qu'on peut, je suppose, aborder. C'est pour ça que moi je dis 8 ans pour cet album-là. On peut commencer plus tôt, bien sûr, le considérer comme une simple histoire.
On commencera par le Petit Chaperon Rouge.
Voilà.
Oui, il y a des références. C'est une version du Petit Chaperon Rouge.
Oui, il y a des références.
C'est la suite. C'est la suite.
Voilà,
oui.
C'est une suite où on imagine qu'elle a pas complètement, elle a pas été dévorée toute crue complètement. C'est un conte.
Mais oui.
Voilà, elle existe encore. Plus tard, on la retrouve. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était pas... Bon, l'illustration est pleines pages, très souvent, dans des tons, on va dire, sombres, oui, des tons divers. Oui.
Des tons de forêt. Des tons de petits chapeaux rouges.
Oui, des tons de forêt dans l'hiver. Mais rien ne fait peur dans cette histoire. Quand elle se promène dans les bois, elle n'a pas peur, Aurore. Elle entend les bruits de la forêt, les animaux. Quand elle promène le loup, elle n'a pas peur du tout d'être avec lui. On la sent.
Et comment tu expliques le titre, Cœur de bois ?
Voilà. Alors ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse et que je voulais soulever.
On laissera aux auditeurs
le soin de savoir pourquoi Cœur de bois.
Moi, ce que je trouve très beau quand même, c'est qu'elle lui dit... Enfin, c'est sur le pardon, mais elle lui dit qu'elle ne lui a pas pardonné, qu'elle ne l'excuse pas, mais... Mais de toute façon, qu'elle a choisi la vie et le...
Mais la vie continue.
La résilience et le...
C'est pour ça que je pense que dans un petit exercice après, on peut parler justement de qu'est-ce que c'est que le pardon ? Est-ce qu'elle a pardonné ? Pourquoi elle ne pardonne pas ? Est-ce qu'on peut ne pas pardonner ? Voilà. Pour moi, c'est un ouvrage extrêmement important.
C'est pas un cœur de pierre, hein. C'est un cœur de bois. C'est à la limite, donc il y a l'absence de pardon.
Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée.
Tu nous as pas dit de qui était ce livre ? Si.
De Henri Meunier et Régis Lejean. Régis Lejean qu'on a déjà rencontré dans d'autres livres aussi.
Et toi, tu le conseillerais à partir de 6 ans ?
Moi, à partir de 6 ans, peut-être à lire comme une histoire. Mm-hmm. Mais pour aller un peu plus loin, on va dire, je pense qu'il faut quand même être un peu plus grand. Moi, j'avais dit 8 ans au début. Mais bon, si c'est qu'une histoire, on peut faire 6 ans.
De la terre à la pluie.
Vous voyez, vous entendez ces trois silhouettes de femmes qui marchent, l'une très vieille avec une valise, la seconde portant un bébé dans les bras et la troisième c'est une enfant avec son cartable sur le dos. C'est comme si c'était les trois âges de la vie. Ce sont les trois personnages du livre de Christian Lacroix, De la terre à la pluie, édité chez Seuil Jeunesse. Ces trois personnages ont quitté leur village. Elles traversent le désert. Elles laissent derrière elles des vaches mortes couchées sur le flanc. Il n'y avait plus d'eau. Elles traversent le désert à la recherche de l'eau. Elles ont faim. Elles ont froid. Elles avancent, guidées par une colombe qui se trouvera là sur chaque page, comme si c'était un espoir à venir. Approchez-vous encore et regardez leur visage, très finement sculpté dans de l'argile. Car ce sont des sculptures de glaise. Leurs regards un peu figés traduisent la peur, la tristesse, l'horreur. Et en même temps, vous sentez un silence glaçant qui pèse sur les paysages traversés. Les paysages traversés, c'est un chasseur-bombardier qui passe au-dessus de leur tête. Il y a des barbelés à franchir. Après, il y a un petit bateau, il faut traverser la mer. Puis après, on se trouve en face d'immenses immeubles gris et aussi des ponts.
On est arrivé dans un ailleurs, alors.
Dans un ailleurs, on ne sait pas où c'est, mais partout, il arrive des choses comme ça, sur toute la terre. Et ça, c'est un peu un ensemble de tout ce qui peut arriver à des gens qui sont obligés de fuir leur pays. Et il y a très peu de textes, sauf à un moment, on en arrive à... Il ne nous reste rien, simplement le froid, la fatigue et la faim. Et c'est l'image qui raconte tout.
C'est une image très puissante parce qu'elle est sombre. On a ces trois personnages de glaise, on va dire couleur de la peau, et qui sont entourés de gens avec des parapluies noirs, ouverts, qui se protègent. On a l'impression que personne ne les voit, personne ne les regarde. Et ils sont là, toujours à aller en avant, en avant, en avant. Heureusement, il y a là aussi l'oiseau.
La présence de la colombe.
La colombe qui les suit. Peut-être la colombe qui va être là pour, s'ils se retournent, se dire « Continuez, continuez, demain sera meilleur. » Mais cette image est vraiment terrible.
Oui, c'est la plus terrible du livre, je pense. Oui.
Cette pluie qui tombe, on a l'impression qu'elle leur enlève un peu la couleur de leur peau.
Oui, parce qu'après, elle les salit même, parce qu'on voit que la terre glaise est toute transformée.
La terre n'a plus cette même couleur dorée du début du livre.
Alors en somme, on devine qu'il y a plein de personnages à l'intérieur. C'est le seul endroit où il y a d'autres personnages qui apparaissent. Mais c'est comme s'ils n'étaient pas là, c'est même encore pire. On devrait les aider parce qu'il y a une foule et il n'y a que eux, tous les trois. Que elles, tous les trois. Et le livre se termine par cette phrase. Chaque seconde dans le monde, une famille quitte sa terre avec pour seul bagage la force extraordinaire de vivre encore. Et sur la quatrième de couverture figure la citation de Victor Hugo. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. C'est tiré des Contemplations. Voilà, ce livre, avec peu de mots, mais un silence assourdissant, donne vraiment à l'illustration tout son sens. Le silence lourd des gens qui déracinaient. C'est une façon très originale de décrire l'exil au moyen de ces modelages qui ont une telle intensité dans le regard. Ils ont l'air figés, ils ont peur, ils ont froid, on le sent. Et ça fait penser, je trouve, aux sculptures d'Oumanso. Oumanso qui avait fait une installation sur le Pont des Arts, ça fait déjà longtemps, je crois que c'est en 1999, et qui étaient des personnages aussi qui avaient l'air déracinés un peu, je trouvais, et ça m'a fait penser à ça. Et justement ici, cette un peu minéralité des personnages, ça s'oppose justement avec les illustrations froides, symboliques. C'est un livre quand même très bouleversant qui permet, je pense, de sensibiliser les enfants au phénomène de la migration des peuples. Mais dans le livre, il y a toujours un espoir, l'espoir d'aller vers la lumière, vers peut-être un monde meilleur, et c'est symbolisé par la colombe. Alors pour quel âge ? 4 ans, ça me paraît quand même un peu petit, je ne sais pas ce que vous en pensez.
On peut à 4 ans regarder les illustrations, les images
sont très belles.
Beaucoup, oui. Je pense que il y a pas mal de photos.
Oui,
dans la technique.
Je crois que finalement, ça dépend beaucoup de l'adulte qui accompagne l'enfant. Et qui doit sentir pouvoir porter le livre.
Et moi, je dirais aussi de l'environnement de l'enfant, si c'est bien un sûr. Enfant dans le,
qui à qui on a maison, déjà parlé de ça.
Oui, ou qui habite une maison où il y a la télé qui ronronne. On parle des migrants tous les jours, donc peut-être que ça va mettre des images sur ce qu'il n'a pas encore compris.
Oui, et puis finalement, comme il n'y a pas de texte, on peut inventer ce que ces trois personnages ont dans leur tête quand ils circulent.
Tout à fait. Oui, c'est n'importe quel pays.
Voilà.
Oui, on peut adapter ça à l'âge.
Je pense, oui. Oui, oui.
Et à l'histoire de l'enfant et de l'adulte qui raconte cette histoire. En tout cas, c'est un livre quand même très utile, je pense, parce qu'il y a assez peu. Enfin, il y en a de plus en plus, hélas, j'allais dire, mais il y a assez peu de livres jeunesse qui traitent de ce sujet.
Ouais,
enfin, d'album en tout cas illustré, donc c'est vraiment un très bel album.
Et puis il y a cette page où on voit les trois personnages avec le bébé, et chacun a à la place de son cœur une tache dorée qui montre que même si autour l'environnement est très agressif, ils sont toujours vivants, toujours avec des choses à partager. Je trouve que c'est.
Oui, c'est bien ça.
C'est bien, oui. Mm-hmm.
On l'appelait le Caval parce que Caval courait tout le temps, du soir au matin et du matin jusqu'au soir. Jamais Caval ne s'arrêtait, même pas pour dormir, même pas pour rêver, même pas pour aimer. Sans jamais rien en voir, il avait déjà fait 100 fois le tour de la terre, il avait déjà affronté tous les déserts, toutes les tempêtes et tous les océans. Caval ne craignait rien. Rien sauf Faim, qui courait derrière lui.
Faim, F-I-N.
Faim, F-I-N. Il s'agit de l'album Caval, écrit par Stéphane Servant et illustré par Rebecca D'Autremer. C'est deux noms très connus dans la littérature jeunesse. Rebecca D'Autremer est une star de l'illustration. Elle fait un travail assez remarquable, assez magnifique. Après, on aime, on n'aime pas.
C'est sûr qu'on n'y est pas insensible.
Mais on peut pas être insensible à son univers. Et puis Stéphane Servant, c'est un auteur très sensible qui écrit pour les plus petits, pour les ados, et qui sera l'un de nos invités de la fête du livre jeunesse du mois de mai 2018. Et voilà ce que dit Stéphane Servant de son album, enfin de leur album. Alors oui, Caval est un album, parce qu'il y a du texte et des images, et que les images et le texte jouent l'un avec l'autre. C'est un album, mais un peu différent, parce que le texte fait comme des chapitres, et que les images se déploient ensuite sans texte, comme une drôle de BD. Alors oui, Caval est un album jeunesse, parce que tu peux le lire dès que tu ouvres les yeux, que tu n'as pas besoin de savoir lire pour dérouler l'histoire, et que l'histoire raconte une course folle autour du monde, et que se tenir sur deux pattes, marcher, courir, explorer le monde, tout ça, c'est vivre, pas vrai ? C'est un album jeunesse, mais un peu différent, parce que les textes et les images nous parlent aussi à nous, adultes et parents, de nos angoisses face à notre propre finitude. Et qu'il n'est pas impossible que vous vous reconnaissiez dans ces personnages un peu étranges. Alors oui, l'illustratrice s'appelle Rebecca d'Outremer, et c'est un joli nom. Et elle dessine très bien les belles endormies, les yétis, les tortues géantes, les hommes au long nez et tant d'autres choses. Ce sont des illustrations de Rebecca d'Outremer, mais un peu différentes. Il y a du vieux papier, du noir, un peu de rouge, et tout ça, ça bouge, ça bouillonne, ça éclabousse, et ça surprendra certainement celles et ceux qui pensaient que Rebecca ne dessine que de belles endormies, des yétis, des tortues géantes, des hommes au long nez. Non, Rebecca peut aussi dessiner des jambes, des chapeaux, des montagnes, des oiseaux. Alors oui, la maison d'édition, c'est Didier Jeunesse, et ils font de beaux albums. C'est chez Didier Jeunesse, mais c'est un peu différent. Et ça a été une chouette aventure de construire cet album avec Rebecca et Vincent Etienne, l'éditeur. Une longue aventure, pleine de doutes, de silences, de discussions, de joie, mais une aventure passionnante, comme toutes les aventures. Alors, vous l'aurez compris, Stéphane le dit lui aussi, c'est quand même un album très particulier et un peu étrange, avec donc un très beau texte poétique et presque philosophique, qui aborde essentiellement le thème de la mort et de la peur de la mort, mais aussi le thème du temps qui passe, le thème de profiter de l'instant présent, de la contemplation, de ne pas être forcément toujours en mouvement et dans la course effrénée vers le futur, vers l'avenir, parce que ce personnage... Caval, il va rencontrer dans sa course folle, il va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Montagne, et là il va être obligé de s'arrêter. Enfin, c'est une fable, un conte. Le texte est par petits chapitres, et entre petits chapitres de texte, on a des grandes plages d'illustrations. On peut presque lire l'histoire sans lire le texte, et lire le texte sans lire l'histoire sans lire le texte, oui, et lire les images sans lire le texte. Je ne sais pas si on a compris, mais enfin bon, vous avez.
Voilà. Je voudrais rajouter.
Oui, il se complète bien quand même.
Il se complète bien.
Petit détail de plus, le texte est imprimé en orange,
oui,
ce qui n'est pas banal.
Ce qui n'est pas banal, et les images sont comme un peu des images anciennes, un peu des années 30. Il y a un petit côté années 30, rétro, sépia, qui est assez étonnant parce que...
Et ça fait un peu effrayant.
Et ça fait assez peur. Hein. Alors, Stéphane dit, dès qu'on ouvre les yeux, c'est une espèce d'être sans forme vraiment, une espèce de nuage, mais avec une grande bouche rouge.
Et qui ne fait que courir.
Et qui ne fait que courir derrière Caval. Et elle est assez impressionnante, Fin. Les images sont impressionnantes, mais si on les regarde de près, on l'avait constaté en comité de lecture, dès qu'on les regarde de près, il y a des petits détails, on les apprivoise, et puis il y a des petits points d'humour qui font baisser la pression, qui dédramatisent.
Je pense que, comme tous les livres, dès que le bébé ouvre les yeux, à condition que les parents soient particulièrement séduits par ce livre, je pense que si les parents sont emballés, ils vont savoir faire passer quelque chose.
Mais je crois que c'est vrai pour tous les livres, en fait.
Tout à fait.
Oui, pour tous les livres. Donc, je ne sais pas si c'est dès la naissance. En tout cas, nous, en tant que comité de lecture jeunesse, on pourrait peut-être... le proposer à partir de 8-9 ans, mais à l'adulte qui accompagne l'enfant de décider si c'est plus tôt. C'est vraiment un livre fait pour être lu à voix haute. je pense, vraiment.
À condition d'avoir un coup de cœur.
À condition d'avoir
oui,
un coup de cœur.
Oui, mais le coup de cœur, les adultes peuvent l'avoir pour eux-mêmes.
Parce que
oui,
c'est
moi,
un
c'est un livre que j'ai beaucoup, un album que j'ai beaucoup aimé.
C'est un album pour adultes.
Ah, oui, oui, oui,
enfin, c'est un album pour intergénérationnel.
Tout à fait. Donc, je pense qu'un adulte qui se l'est approprié peut plus facilement après en restituer des bribes aux enfants qui sont autour de lui. Je pense
absolument.
Qu'il peut y avoir une lecture accompagnée et très.
Mais c'est
très
vraiment
bonne,
là l'album qu'on peut s'offrir entre adultes
ah,
aussi.
Ah, tout à fait,
enfin,
oui. Oui.
Voilà. Et ben voilà. Je crois que pour aujourd'hui, les petits éclats de lire sont terminés. Alors, je vous rappelle que ces coups de cœur ont été choisis en comité de lecture album, que ces comités de lecture sont ouverts à tous et à toutes, qu'ils se tiennent tous les premiers mardis du mois à 18h30, soit au Centre culturel Jean Giono, soit à la librairie du Poivre d'Âne. Le prochain comité de lecture aura lieu le mardi 13 mars au Centre culturel et littéraire Jean Giono. Vous pouvez trouver toutes ces informations et tous nos derniers coups de cœur, dont ceux dont on vient de vous parler, mais qui apparaîtront pas forcément dès aujourd'hui, mais très rapidement sur notre site éclatdelire.eu. Je vous rappelle très brièvement les titres dont on a parlé. D'Entre les ogres, de Dieu et Baume chez Seuil Jeunesse à partir de 3-4 ans. Cœur de bois de Régis Lejon et Henri Meunier chez Notary à partir de
8 ans.
Pour Daniel en tout cas. De la terre à la pluie de Christian Lagrange chez Seuil Jeunesse à partir de quand on se sent de le lire, mais 4 ans, 5 ans.
Oui.
Cavale de Stéphane Servant et Rebecca D'Outremer chez Didier Jeunesse à partir de 9 ans. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, Laetitia.
Merci.
Merci.